France Culture.
Je souhaite seulement que tu fasses quelque chose de toi, de Holly McNish. Extrait de Parentalité. Réalisation, Juliette Eman.
Marchandant avec une gamine de 7 ans. J'ai partagé mon corps avec toi des mois avant ta naissance. Tu pourrais au moins me filer une de tes chips.
Douce séparation. D'abord, tu n'avais plus besoin de mon corps. Pierre tombale d'une étoile, éjectée violemment, aveugle et hurlante. Alors tu n'avais plus besoin du battement de mon cœur. Cordon coupé et attaché jusqu'à ce que cessent les flux. Jusqu'à ce que la marée s'assèche, jusqu'à ce que la peau se flétrisse. Notre rude proximité charnelle jetée dans une poubelle. Alors, tu n'avais plus besoin de moi. Seins qui durcissent, feuilles de chou superflues pour accompagner la perte qui enfle. Alors, tu n'avais plus besoin de moi pour te tenir la tête quand tu te redressais. Pour te tenir la main quand tu marchais. Pour te tenir la cuillère quand tu mangeais. Pour trottiner derrière ta bicyclette. Pour attraper ta chute de patineuse à roulettes. Pour courir derrière ton scooter. Pour m'asseoir à côté de ton lit. Pour lire une histoire jusqu'à ce que tu t'endormes. Pour faire courir mon doigt sous chaque lettre. Pour épeler en silence chaque mot que tu lis. Quel sentiment étrange. T'emmailloter d'amour juste pour t'aider à me quitter.
Parfois je te vénère. J'ai épié un ange hier. Il a gambadé vers mes jambes, jeté ses affaires d'école sur mon autel, prié pour jouer avec des potes. Quand tombe la pluie, je le ramène à la maison. Lui remplit la panse, l'embrasse sur la tête, verse de l'eau chaude dans une bouillotte, glisse la bouillotte sous sa couette. Je regarde l'ange être emporté. Je borde ses ailes dans son dos. Je pose son auréole sur la table de nuit. J'éteins la lampe.
À propos des enfants qui vous demandent de marcher 3 mètres devant eux. J'ai lu quelque part qu'avoir un enfant équivaut à vivre une relation abusive. Cette idée sous-estime certainement à quel point les relations abusives sont horribles. Néanmoins, je pense que ce que nous balancent à la gueule ces petites personnes est parfois sacrément dur à encaisser. Je me souviens encore de la fois où j'ai fait pleurer ma mère. Je suis sûre qu'il y en a eu plein d'autres, mais je me rappelle la fois où j'ai réellement vu que je l'avais fait pleurer. J'étais assise, je faisais mes devoirs, j'avais 14 ans. Il fallait que je dessine ce que je voyais par la fenêtre de ma chambre, une autre maison en face de la nôtre, et un panneau de limitation de vitesse à 60 km à l'heure autour duquel se forgeaient les amitiés de toute une vie. Je dessinais donc ce panorama d'humeur grincheuse, car le dessin n'était pas très bon et que j'espérais à un moment donné de ma vie faire autre chose qu'aller à l'école, puis rentrer faire mes devoirs toute la soirée. Je faisais toujours mes devoirs, lesquels ont absorbé une part considérable de mon adolescence. La plupart des soirs, je ne me couchais pas avant minuit. Ce soir-là, alors que je dessinais, que je gommais, que je fulminais, puis redessinais un mur de briques tout à fait banal, ma mère est rentrée du travail. Elle est aussitôt montée dans ma chambre pour me demander comment s'était passée ma journée. Enfant, je considérais que ça allait de soi. Pour une raison que je ne parviens pas à m'expliquer, j'ai dit « dégage » à ma mère. Je n'ai même pas levé les yeux, j'ai juste dit « dégage ». Elle a fondu en larmes et détalé de ma chambre. Je me suis sentie mal, je lui ai couru après en lui disant combien j'étais désolée. Je me souviens de sa réponse. Oh, ça va, j'ai juste eu une dure journée. Dites exactement sur le même ton que j'utilise aujourd'hui avec mon enfant quand je suis à bout et lui réponds en me sentant coupable. Oh, ça va, j'ai juste eu une dure journée. Peut-être que la grande différence entre ma mère et moi, c'est qu'elle était infirmière. Tout au long de la journée, elle se chargeait des problèmes, des traumatismes, des blessures et souvent de la mort des gens. J'imagine qu'elle était une infirmière formidable. Premièrement parce qu'elle est une mère formidable, patiente et extrêmement gentille. Deuxièmement, parce qu'elle rapportait très souvent à la maison des cadeaux offerts par des patients. Un lundi, des Ferrero Rocher. Pendant l'été, un sac de légumes du jardin des frères de 90 ans qui vivaient ensemble. De temps en temps, des chocolats à l'orange Thérèse. Des DVD prêtés par la belle dame qui souffrait de diabète. J'ai associé les patients de ma mère à ces cadeaux et enfant, me suis égoïstement lamentée sur la mort de certains d'entre eux qui signaient la fin de leurs offrandes. De mon côté, je n'ai jamais été, et ne suis en rien, l'un de ces travailleurs essentiels mis en lumière à juste titre par le vocabulaire de la crise du coronavirus. Ma mère l'était, et pas qu'un peu. Après une journée à exercer ce type de travail sous-payé, sous-considéré et extrêmement stressant, elle rentrait à la maison et venait aussitôt voir sa fille. Et sa fille lui disait à peu de choses près d'aller se faire foutre. Si j'avais le pouvoir de modifier une seule journée de mes jeunes années, ce serait celle-ci. Pas le jour où je me suis collé les doigts avec de la glu. Pas le jour où j'ai souillé ma culotte avant d'aller au parc et que mes parents l'ont dit aux parents de mes amis qui l'ont répété à mes amis. Pas le jour où ma mère m'a forcée à porter la robe chasuble en velours rouge que ma mamie m'avait envoyée parce qu'on avait une sortie scolaire au théâtre et qu'il fallait mettre quelque chose de joli. Je m'étais alors enfermée dans la salle de bain en criant « Je ne mettrai pas cette robe, je ne mettrai pas cette robe !» Mais j'ai quand même dû la porter avec en dessous un grand chemisier à fanfreluche et on a été au théâtre et tous mes amis qui étaient en survêtement se sont moqués de moi. Ce ne serait même pas la fois où des années plus tard, j'ai quasiment mis fin à ma relation amoureuse avec mon premier petit ami, car au lieu de lui dire simplement « Je ne sais pas trop m'y prendre pour te branler, mais j'aimerais le faire comme il faut si tu m'aidais », je lui ai dit, alors que je commençais à avoir des crampes dans mon poignet mal positionné autour de sa verge, « C'est vraiment chiant, débrouille-toi tout seul », et puis je suis partie. Aucune de ces fois-là n'est comparable au jour où j'ai fait pleurer ma maman. À présent, me voilà debout devant les portes de l'école, à regarder les enfants rejoindre leurs mères, principalement des mères avec quelques pères et grands-parents et gardes d'enfants, mais surtout des mères. Je les observe, des mères qui ont couru, je le sais, sortant tout juste d'un énième examen de l'utérus, des mères qui ont passé la matinée à se faire rabaisser par leur patron parce qu'elles bossent à temps partiel, des mères qui prennent leur courage à deux mains pour demander à bénéficier d'horaires à la carte, des mères qui ont abandonné leur projet de carrière, leur indépendance financière et leur corps, ces corps qui fonctionnaient bien mieux avant que maintenant. Des mères qui, dans certains cas, semblent avoir oublié que personne ne leur interdit de laisser leurs enfants de temps à autre pour sortir. Des mères qui semblent ne plus avoir de prénom. Je vois les sourires quotidiens de ces mères, leur être rejetés à la figure par des mous dégoûtés, des plaintes et des mines renfrognées, des cartables balancés à leurs pieds comme des tas de crottins de cheval, des plats critiqués et dénigrés avant même qu'une bouchée ait franchi la bouche de l'enfant, des insultes hurlées, des menaces crachées. Je n'arrive pas à le supporter. Comme parent, je me suis progressivement transformée en ma grand-mère, rabâchant qu'il faut être reconnaissant et respectueux envers ceux qui vous respectent, et manger cette satanée bouffe qu'on vous pose sur la table à l'heure du dîner, que vous en ayez envie ou non. Si j'ai pu manger de la purée de navet toutes ces années, alors toi aussi. Désolée, maman. Allergie mise à part, bien sûr. Récemment, j'ai demandé à ma fille de m'applaudir pour avoir étendu le linge. Si ses amis ne disent pas merci quand je pose de la nourriture sur la table, je me contente de reprendre l'assiette et je m'en vais jusqu'à ce qu'ils pigent ce qui se passe. Je suis en train de devenir une mère embarrassante et ridicule. Et je suis sûre que ça ne fera qu'empirer avec le temps.
Jekyll et Hyde. À l'heure du coucher, dans la lueur du crépuscule, tu m'as enlacée serrée comme un cauchemar, pattes à modeler sur mes genoux, bras enveloppant mon dos comme cadeau réenrubané. Tu réclames une autre histoire, inspectes ma poitrine, me supplies de ne pas mourir, te mets à pleurer à cette simple pensée. Je retape ton oreiller et te borde. À l'approche des portes de l'école le matin suivant, tu marches deux pas à l'écart de moi, comme on change de trottoir pour fuir la menace. Dans la cour de récréation, tu déposes ton cartable et ton manteau, mes chevilles transformées en sabots de cheval, roule des yeux à chaque mot que je dis, regardant bien à tes amis, ployant sous la lourdeur d'avoir l'air cool, en des formes plus anguleuses, au point que même mon ombre, chevauchant ton ombre, gêne ton espace. Retour à la maison, débarrasser la vaisselle du dîner, pyjama radiateur en place, je te borde dans la chaleur du coucher, te dis que je t'aime, tu me dis que toi tu m'aimes encore plus, réclame un autre câlin. Mes bras à nouveau grands ouverts, bien sûr. Mes bras à nouveau grands ouverts.
Raisons qui peuvent me mettre en retard à la sortie des classes. Un retard de métro, une envie pressante d'aller au WC, branlette rapide qui a trop duré, une horloge qui n'arrête pas une sieste, métro en retard, embouteillage, une tempête de neige, salaud de patron, oubliant que j'ai un enfant.
Maintenant je comprends, maman. Désolée. Elle serait debout près de l'évier, ayant disposé toutes les assiettes sur la table de la cuisine pour ses enfants et les enfants de ses amis, tous ceux qui sont venus jouer. Et nous la remercierions en marmonnant, cuillère remplissant déjà les bouches. Et elle resterait debout pour manger sa part dans la casserole sur la cuisinière. Et ça m'irritait qu'elle fasse ça. Et nous lui passerions nos assiettes, elle assurant déjà le relais, les mains submergées de bulles, nous retournant en vitesse à nos jeux. Et elle s'endormirait devant des films, juste avant la fin, et ça m'irritait qu'elle fasse ça. Et je lui donnerais un coup de coude et lui expliquerais qu'une soirée cinoche, c'est pour nous deux. Et elle recalerait le coussin, me sourirait et acquiescerait. Et blottie dans le lit, un enfant niché dans chaque courbe des bras, comme des paquets d'amour volés, elle s'assoupirait en lisant les histoires et ça m'irritait qu'elle fasse ça. Et nous tirerions sur ses deux bras, une fois encore pour la sortir des ronflements. Et elle se réveillerait d'une secousse. Et elle nous sourirait et lirait encore un peu.
Karma maternel. Quand mon amie, qui n'a pas d'enfant et n'a jamais eu à s'occuper d'un seul, pas même une journée, m'a dit, alors que nous nous mêlions aux jambes d'heure de pointe des entrailles londoniennes, sautant de métro en métro parmi un millier de genoux à hauteur d'enfant, et que j'accrochais les sangles à mon bébé car j'avais rêvé chaque nuit cette semaine-là que je la perdais dans la cohue des corbeaux miettes s'amassant dans les caves londoniennes, mon enfant sur le quai et moi cognant des poings sur la vitre qui se refermait, lui criant des ordres affolés « Reste là où tu es, mon amour, reste là où tu es !» alors que ses larmes et ses sanglots devenaient flammes brûlantes, son corps se dissipant hors de vue quand la rame a tourné dans le tunnel. Quand mon ami, qui n'a pas d'enfant et n'a jamais eu à s'occuper d'un seul, pas même une journée, m'a dit ce jour-là « Si j'avais un enfant, je n'utiliserais jamais de sangles qui traitent les enfants comme des chiens. Tu ne crois pas ?» J'ai écouté, j'ai acquiescé, j'ai inspiré. Quand mon amie, qui n'a pas d'enfant et n'a jamais eu à s'occuper d'un seul, pas même une journée, m'a dit, alors que nous commandions à déjeuner au café et que ma fille, fouillant dans son sac à dos, en sortit ses 3 poupées Barbie préférées, dont les boucles de cheveux ressemblaient aux siennes, la couleur de peau identique, ce qui était très dur à trouver et plus cher que les blondes, et qu'elle les a assises sur la table, qu'elle a bâti un château de sachets de sucre, leur a fait parcourir 1000 voyages pendant qu'on était servis et qu'on mangeait. Quand mon amie, qui n'a pas d'enfant et n'a jamais eu à s'occuper d'un seul, pas même une journée, m'a dit ce jour-là, « Si Barbie était une femme, elle n'aurait même pas de règles. Terreau propice pour une future anorexique. Si j'avais un enfant, je ne lui offrirais pas de Barbie. C'est pas une façon d'éduquer une femme. Tu ne crois pas ?» J'ai écouté, j'ai acquiescé, j'ai inspiré. Quand mon amie, qui n'a pas d'enfant et n'a jamais eu à s'occuper d'un seul, pas même une journée, m'a dit ce jour-là qu'elle ne soudoirait jamais son enfant avec des bonbons, qu'elle ne le laisserait jamais jouer en ligne sur son téléphone pendant un repas à table, qu'elle ne s'enfermerait jamais dans la salle de bain le soir en prétextant une diarrhée chronique juste pour avoir la paix 10 minutes, qu'elle ne ferait jamais le vœu en regardant une étoile de se casser une jambe, ou peut-être les deux, juste assez pour aller à l'hôpital, pour sa bouffe gratuite et quelques jours de repos. Quand mon amie, qui n'a pas d'enfant et n'a jamais eu à s'occuper d'un seul, pas même une journée. Quand mon amie, qui n'a pas d'enfant et n'a jamais eu à s'occuper d'un seul, même pas une putain de journée. Quand ma putain d'amie, qui n'a pas de putain d'enfant et n'a jamais eu à s'occuper d'un seul, putain, même pas une putain de journée. M'a dit ce jour-là, elle ne ferait jamais, elle ne ferait jamais, elle ne ferait jamais, jamais, jamais. Quand mon amie, qui n'a pas d'enfant, m'a dit qu'elle était enceinte, j'ai souri et j'ai dit « c'est génial ». Félicitations.
Ce soir, je vais préparer des sandwichs aux chips pour le dîner, avec en accompagnement des bonbons sous coupe. Parfois, je meurs juste d'envie qu'on m'aime.
Le plaisir est devenu un truc que je dois nettoyer après. Festin de pudding dans des bols, à laver. Taches de pinceau, à gratter sur la moquette. Habits de rechange, à essorer, à étendre. Miettes de biscuit, à balayer. Bonbons collés sur les dessus de table et les tapis de chambre. Le plaisir est devenu un truc que je prépare pour d'autres gens. Bien rangé une fois qu'ils sont partis.
Le tournant de la parentalité. Dans le rôle du parent du week-end, il y a une bifurcation qui se produit, selon vos amis, l'endroit où vous vivez et le degré de votre culpabilité, lorsque votre enfant est âgé d'environ 4 ans. Les fêtes d'anniversaire. La règle numéro 1 avant cet âge est la suivante. Si votre enfant se rend à un anniversaire, vous restez à la fête. Après cet âge, la règle devient « si votre enfant se rend à un anniversaire, vous ne restez pas à la fête ». Comme parent, la prise de conscience de ce changement est un moment que je n'oublierai jamais. J'arrive, prête à rester assise 3 heures dans cette fichue foire funky, un second week-end d'affilée, à boire du thé merdique et à essayer de trouver un endroit sur le sol où poser mon sac, qui ne soit pas couvert de haricots blancs écrasés, de chips ou de vomi, coupé du soleil ou des orages, car comme tant de locaux reconvertis en salles de jeux pour enfants, il n'y a pas de fenêtre pour les adultes désireux de voir le monde extérieur. J'entre. Quelque chose cloche. Il n'y a pas d'autres parents qui traînent dans la pièce avec sur le visage cette expression amère du genre « c'est ton tour d'aller à cette fichue fête d'anniversaire ». Il n'y a qu'un seul groupe de parents. Ceux qui nous accueillent et collectent les cadeaux que leur enfant ouvrira plus tard tout en se plaignant d'un truc qui s'est mal passé à la fête alors que ses parents l'ont méticuleusement planifié ces 3 dernières années. Je souris étant le cadeau, ayant bien pris soin de vérifier que je ne leur rendais pas celui qu'ils avaient offert à mon enfant, mais qu'il provient d'un parent d'un autre groupe d'amis. Je me dis que ce jeu de sculpture 3D en clous va peut-être éternellement être emballé, puis déballé, et planqué, puis réemballé, jusqu'à ce que la boîte en carton se désintègre au point que le dernier couple de parents dise « Ah, il est un peu trop abîmé pour l'offrir, non ?» ou « tu es sûre que ce n'était pas celui qu'on lui avait déjà offert ? Et finissent par faire un bâton en 3D à leur enfant. Je vérifie à nouveau. Vous êtes sûre de ne pas vouloir que je reste pour aider ? Non ? Non ? Cool. Et m'enfuis. Avant ce tournant dans ma vie de parent, j'espérais presque que ma fille soit antipathique. Car plus un enfant de cet âge a d'amis, plus les samedis et dimanches sont occupés par des fêtes d'anniversaire d'enfants. C'est un dilemme. Évidemment, c'est super si votre enfant ou vos enfants a des amis. Vous voulez que vos enfants aient des amis. Vous voulez aussi qu'ils soient gentils, affectueux, drôles et intéressants, car s'il est gentil, affectueux, drôle et intéressant, imaginez-vous, il pourrait se faire plus d'amis. Le seul problème, une fois qu'ils ont beaucoup d'amis, c'est que vous commencez petit à petit à perdre vos week-ends successifs au profit de Marvin le magicien, de sorties à la ferme pour caresser des animaux, de sessions maquillage de princesse, d'hommes déguisés en cochon, ou, assis en tailleur, à déballer lentement, couche après couche, vos précédents après-midi du week-end, jusqu'à ce que vous réalisiez que la personne qui pleure dans un coin n'est pas l'enfant sur lequel la musique ne s'est pas arrêtée une seule fois, mais bel et bien vous. Regardant en même temps le sempiternel lapin à l'air galeux tiré d'un chapeau, tandis qu'un des gosses les plus infectes s'écrie « Je veux du gâteau maintenant !» Je m'en veux d'avoir dénigré ici le magicien. C'est une personne réelle qui est très très talentueuse dans son métier. Et c'est quelqu'un de très bien engagé pour les fêtes d'anniversaire d'enfants, car il réussit bon an mal an à les distraire pendant 2 bonnes heures. Seulement, je l'ai vu à de trop nombreuses reprises pendant plusieurs années et je l'ai trop souvent imaginé à poil dans des orgies avec les autres parents lorsque j'avais besoin de penser à autre chose qu'à remplir les bols de chips. À ce stade de mes réminiscences, j'aimerais tout particulièrement remercier mes voisins pour la fête d'anniversaire organisée pour leur bébé d'un an, qui se résumait à un château-prison gonflable pour les enfants et un bar pour les adultes. Bref, pendant quelques années, il y a ce dilemme. Puis un tournant, après lequel les fêtes d'anniversaire prennent un sens opposé. Un revirement complet. À présent, plus votre enfant va à des fêtes, plus vous passez d'après-midi sans avoir à vous en occuper. C'est encore mieux, car vous savez qu'ils s'amusent comme des petits fous et que vous êtes donc affranchis à la fois de toute responsabilité et culpabilité. C'est la situation parfaite. À ce stade, vous devez pousser votre enfant à se rabibocher avec les amis que vous l'aviez forcé à laisser tomber parce que, merde, vous ne vouliez plus revoir ce satané magicien. Même avec les petits cons infects, tiens ta langue, chérie, et va profiter du bowling.
Mother, fucker. Si... Chaque fois que je m'en allais, loin de mes enfants, dépouillé de ce costume de mère, revêtu d'un nouveau déguisement, si chaque fois que je m'en allais, l'enfant en sécurité sous la garde de quelqu'un d'autre, je me délectais de la sueur de 20 amants, léchais leur chaleur corporelle, coton ruisselant de la sève de l'épine dorsale, vulve palpitante, veine déchaînée, si chaque fois que je m'en allais, je me régalais de 40 langues d'amants, rampais dans leurs bouches ouvertes, suçais en sachets de thé leurs amygdales pendantes, m'agenouillant sous des nappes, visage plongé dans des bouillons de couilles, soupe de sperme translucide jusqu'à m'en faire péter les coutures du ventre, orgie pour mon pudding, orgie dans mes songes, orgie sur mon assiette du petit déjeuner, orgie pour mon dîner. Si chaque fois que je partais, j'aimais et suçais et avalais, je serais toujours une aussi bonne mère quand je reviendrais le lendemain.
Postpartum. Ils m'ont dit que j'étais superbe. Ils m'ont dit que j'étais rayonnante. Ils m'ont dit que j'étais éclatante. Ventre se gonflant doucement de vie. J'ai donné naissance à un bébé. Ramener le bébé à la maison avec moi. Ils m'ont dit qu'elle était superbe. Ils m'ont dit, j'étais d'accord. Mon corps réduit au silence à présent. Pour nourrir et pleurer et saigner.
Reader.
tremblant. Quand je suis de mauvais poil, souvent je sors et me plante dans une carterie pour lire des cartes de vœux. J'ai un énorme respect pour quiconque est capable de concevoir un truc qui puisse faire hurler de rire une autre personne en simplement une ou deux lignes ou un dessin. Dans une petite boutique d'Illy, avec ma fille, je suis restée debout à lire une blague après l'autre sur les cartes d'un de mes éditeurs préférés. J'en ai acheté quelques-unes, et de retour chez moi, je les ai envoyées à des gens que j'aime. Puis j'ai écrit à l'éditeur, car à ma connaissance, parmi tous les personnages dessinés sur leurs cartes, aucun n'avait une peau autre que rose clair. La même nuance de rose clair sélectionnée par ordinateur pour coloriser tous les visages et toutes les mains. Coloriser ne doit prendre que quelques secondes avec un logiciel informatique. À l'exception de Docteur Lapeluche ou Vaiana, je ne me souviens pas avoir déjà vu aux fêtes d'anniversaire des enfants blancs ouvrir des cartes avec des personnages à la peau brune. Je ne m'approche pas non plus pour admirer chaque carte offerte. Mais, à moins que l'image représente un groupe d'enfants, où il se peut qu'un ou, malaise, deux ne soient pas teintés du rose générique, les cartes d'anniversaire que j'ai vues représentent toutes des enfants blancs. À mon avis, beaucoup de parents blancs se sentiraient mal à l'aise ou gênés d'offrir une carte figurant un personnage à la peau brune à un enfant de peau blanche, alors que dans l'autre sens, c'est inévitable. Lors de conversations sur le racisme, j'ai entendu beaucoup de parents blancs répondre « certainement pas !» comme dans « certainement pas ici !» Certainement pas en Grande-Bretagne. Certainement pas dans notre école, village, ville ou quartier. Il n'y a aucun racisme dans l'école de ma fille, m'a-t-on dit. Aucun, que dalle, zéro. Ce garçon qui s'est fait tabasser devant le magasin du village ne l'a certainement pas été parce qu'il était noir. Dans la classe, les enfants n'ont certainement pas vraiment dit que la petite fille était trop foncée pour qu'il joue avec elle. L'instituteur en maternelle n'a pas réellement séparé les enfants en se basant sur les couleurs de peau blanche et non blanche, 4 enfants d'un côté, 30 enfants blancs de l'autre, avant de leur faire chanter tous ensemble la chanson « Some people are black, some people are white » alors qu'ils n'avaient que 4 ans. La police ne lui a certainement pas passé les menottes sans aucun motif valable. Certainement pas ici. Certainement pas à notre époque. Je n'affirme pas que si votre enfant va à une fête d'anniversaire, vous devez faire correspondre la couleur de peau ou l'apparence de chaque personnage sur la carte que vous achetez avec celle de l'enfant qui la reçoit. Je dis juste que les petits détails s'additionnent et que des choses de grande ampleur se passent et que nous devrions beaucoup plus réfléchir à l'un et à l'autre de ces faits. Chez nous autres parents blancs, soucieux d'être bien intentionnés, j'ai aussi remarqué que nous tentons d'aborder le racisme ou de nous y attaquer en attirant l'attention de nos enfants sur le sujet, en leur disant combien le racisme est mal, tout en continuant d'élever nos enfants blancs dans un environnement de jouets, de livres, de films et ainsi de suite, centré sur la blancheur. De même, quand j'ai demandé au personnel blanc d'une bibliothèque ou à des libraires s'ils avaient des livres pour enfants moins blancs ou des livres dans lesquels le personnage principal n'était pas un enfant blanc, ils m'ont souvent recommandé des livres sur le racisme, comme la série d'albums de dessin mettant en scène Rosa Parks ou Histoire du soir pour filles rebelles. Comprenez-moi bien, je pense qu'il s'agit là d'excellents livres, mais ce ne sont pas des histoires normales, ce sont des histoires centrées sur le racisme ou la diversité. Ma fille ne voulait pas lire de livres décrivant la façon dont une personne de sa couleur de peau allait sans doute devoir combattre plein de préjugés. Ce qu'elle voulait, c'était une histoire où quelqu'un de sa couleur de peau vole dans l'espace avec un nounours. Va s'acheter des dinosaures, ou alors mange des haricots blancs, qu'importe. Simplement des histoires drôles, idiotes, tendres, magiques ou tristes, dans lesquelles certains personnages, voire tous, lui ressemblent à elle et à sa famille. Et elle voulait que ses amis les lisent aussi. Idem pour les jouets, idem pour les cartes d'anniversaire, idem pour les films. En 2020, l'éditeur de cartes de vœux a fini par créer certains dessins avec différentes nuances de couleur de peau. Mais alors que sur la majorité de leurs cartes figure un seul personnage blanc, parfois deux, les dessins inclusifs faisaient apparaître 6 personnages, dont 4 blancs. ou bien quatre personnages, dont trois blancs, ou encore, pour finir, deux personnages, dont un blanc. Afin d'inclure des personnages non blancs, il semble que la compagnie ait jugé nécessaire de créer des cartes avec de larges groupes de gens pour rassurer la base de sa clientèle blanche. La responsabilité n'en incombe pas seulement à l'éditeur. Elle dépend aussi de l'économie de marché, de l'offre et de la demande, du racisme et du fait que nous autres, blancs, sommes apparemment incapables de nous identifier, de nous lier ou nous associer à des personnages dont la couleur de peau est différente de la nôtre. Comme si, par exemple, acheter une carte pour un enfant blanc représentant, par exemple, une ballerine noire, regarder un film ou bien lire un livre qui n'est pas centré sur la vie, les pensées ou les rêves d'une personne blanche, serait en quelque sorte déplacé, trop différent ou simplement dénué de signification. Ironiquement, parce que notre couleur de peau nous en offre le privilège, nous sommes donc aussi les seules personnes sur cette planète à prétendre ne pas faire de distinction entre les couleurs, tout en admirant bouche bée le moindre arc-en-ciel qui vient emplir le ciel.
Les cartes d'anniversaire d'enfants blancs ont des enfants blancs dessus. Les cartes d'anniversaire d'enfants noirs ont des enfants blancs dessus. Encore un poème sur le privilège blanc, écrit par une poétesse blanche de la classe moyenne. Bébé, tu jouais avec des baigneurs de ta couleur. Chez le docteur, le coffre à jouets contenait des mini-clones de toi. Tes premières cartes d'anniversaire étaient pleines de dessins colorés en rose. Sous les lampes du coucher, des histoires chuchotaient la beauté dans des miroirs. Les contes de fées demandaient « Qui est la plus belle de toutes ?»« Sa peau est blanche comme neige, les nains te font glousser, le prince est grand, pâle et beau. » Tu n'as pas passé des heures en quête de cette version de 1997 de Cendrillon où Brandy supplie Whitney Houston de l'accompagner au bal juste pour que tes enfants grandissent en croyant qu'ils peuvent eux aussi voyager en citrouille en se croyant beaux. Tu n'as pas pleuré sur la princesse et le crapaud. Tu n'as pas pleuré au Tesco devant la nouvelle gamme de cartes d'anniversaire avec Docteur la peluche dessus. Tu ne t'es pas interrogé sur la colorisation des lutins. Idem pour les sirènes, idem pour les fées, idem pour les héros, idem pour les elfes. Tu regardes la série d'Harry Potter pour la 700e fois, sans te demander si tous les sorciers sont blancs, ils le sont, sans te demander si toutes les sorcières sont blanches, elles le sont. Si quelqu'un t'interroge sur la politique d'intégration à Poudlard, tu signales la présence de cette fille écossaise, même si tu ne la qualifies pas d'écossaise, et du garçon noir, qui n'a pas de dialogue. En grandissant, tu as pris les chaussons de danse sans te poser de questions, chaussé les habituels chaussons rose pâle sur les habituels collants rose pâle, noué les rubans autour de tes chevilles, ouvert les bras et les jambes en première position. Adolescente, tu as dissimulé les frustrations de la puberté avec du fond teint couleur chair. Les professeurs étaient bien moins enclins à sous-estimer tes talents académiques, à surestimer ton intérêt pour le sport, la danse et le chant. Tu risques moins de te faire arrêter et fouiller en chemin quand tu rentres de la maison des jeunes. Tu n'es pas devenu trop effrayé à l'idée de demander de l'aide à un agent. Tu n'as pas vu ton père maltraité à chaque vacances, les flancs palpés par des uniformes, le suppliant d'être méchant. On ne t'a jamais obligé à te garer sur le côté parce que ta voiture est une belle voiture. Tu risques moins de te faire interner pour avoir hurlé dans la rue si tu souffres de maladies mentales plus tard dans la vie. Si tu poignardes quelqu'un de la même couleur de peau que toi, le crime ne sera pas catalogué en crime de blanc contre blanc. Si une personne de ta couleur de peau poignarde une autre personne de ta couleur de peau, le crime ne sera pas catalogué en crime de blanc contre blanc. Quand 20 jeunes gens de ta couleur de peau montent sur scène derrière leur rappeur favori, l'agence de contrôle des programmes télé n'est pas submergée de plaintes. Tu ne fais pas précéder tes recherches quotidiennes sur Netflix du mot « blanc » juste pour voir un acteur qui te ressemble vaguement. Tu ne te précipites pas pour voir Black Panther. Il y a plein d'autres films de SF. Tu trouvais qu'il y avait de la diversité dans Star Wars. Sur scène, tu vois ta peau parler. Dans les livres, tu vois ta peau parler. Aux infos, tu vois ta peau parler. Dans les pubs, tu vois ta peau parler. Dans les films, tu vois ta peau parler. Tu peux prétendre ne pas voir de couleur car ta couleur est la norme. Tu as quand même bossé dur pour te faire une place dans la vie. Tu n'es pas riche, tu n'es pas raciste, tu n'as pas trempé dans le trafic d'esclaves. Tu ne fais pas partie des privilégiés, tu as tes propres problèmes. Tu ouvres une fois encore des cartes d'anniversaire avec des blancs en couverture. Tu ris facilement aux blagues.
Fuyant le rayon des céréales. Parce que Monsieur Kellogg était un raciste, un bigot, un fanat d'eugénisme, convaincu que les couples mixtes étaient une malédiction pour le pays. Elle me regarde, roule des yeux, me tient la main, nous partons. Elle n'a plus jamais redemandé de Chocopops.
En volant leur innocence. À la mère, avec qui j'ai discuté à une signature, inquiète de voler l'innocence de ses enfants en leur parlant des règles, des parties du corps et du sexe. À Juliette, qui m'a incitée à être plus ouverte sur ces sujets. J'ai dit à ma fille que je saigne tous les mois, que ça commence à 12 ans, peut-être 14. Je lui ai montré des coupes menstruelles, des tampons et des serviettes hygiéniques. Elle est restée près de l'évier, m'a regardé laver le sang de mes mains, essorer la serviette, cercle rose maculant l'évacuation. Elle a demandé si ça me faisait mal. Je lui ai dit que certains jours, j'ai l'impression d'avoir absorbé mon propre poids en muscles. Certains jours, je me sens faible. Mais la plupart du temps, ça va. On a parlé des utérus qui construisent des parois chaque mois. Elle a fait burk devant le sang. Et elle n'a pas arrêté pour autant. Je lui ai dit que j'avais une vulve. J'ai une vulve. J'ai répété le mot. Autant pour moi-même que pour elle. Elle a pouffé, répété un burk. J'ai dit, c'est ce qu'arrière-grand-maman appelle les fesses de devant. Elle a encore pouffé. Et elle n'a pas arrêté pour autant. Je lui ai montré un dessin de lèvres et de clitoris, de capuchon et d'urètre. Je lui ai dit qu'à la puberté, le clitoris grossira. Le capuchon peut se dégager. Elle a gloussé, a dit « Maman, c'est trop d'informations !» Et elle n'a pas arrêté pour autant. Je lui ai dit que son corps était à elle. Et elle n'a pas arrêté pour autant. Je lui ai dit que parfois, quand je me touche le corps d'une façon que j'aime, je sens un fourmillement à l'intérieur, comme un bain bouillonnant, ou un bon caca. Elle a ri à ça aussi. Demandé à quel âge ça commence à marcher. J'ai dit « ça dépend ». Et elle n'a pas arrêté pour autant. Je lui ai dit que personne ne devrait la toucher, que l'intérieur de sa culotte était aussi privé que ses pensées. Elle a soupiré « oui, je sais, on me l'a dit à l'école, sauf avec tes propres mains », ai-je dit. Elle a dit « oui », et elle n'a pas arrêté pour autant. Je lui ai dit que les rapports sexuels entre adultes n'étaient pas seulement pour faire des bébés, en dépit de ce que beaucoup de gens te diront. Et elle n'a pas arrêté pour autant. Je lui ai dit que les grands jouaient avec les corps des uns des autres, comme sur les cordes d'un clavecin. Que le sexe peut être un arc-en-ciel de chansons. Que c'est illégal avant 16 ans. Que le sexe non consenti est illégal et mal. Que les sensations qu'elle peut avoir sont parfaitement normales. Et elle n'a pas arrêté pour autant. Elle n'a pas arrêté pour autant. Elle n'a pas arrêté pour autant de jouer aux poupées et aux petits trains, d'embrasser ses nounours chaque soir, de ramasser des marrons dans la forêt pour de nouvelles batailles. Elle n'a pas arrêté pour autant de regarder des dessins animés à la télé, de réclamer des glaces, de rigoler au moindre pet, de me tenir la main et de regarder des deux côtés avant de traverser la route, de danser autour des chaises jusqu'à ce que la musique de la fête s'arrête. Car ce n'est pas ainsi qu'un enfant perd son innocence.
Lance-Pierre. Après une sortie shopping en ville et une énième dispute pour ne pas avoir acheté de bonbons à la caisse, puis quand nous nous sommes arrêtés pour prendre de l'essence au retour, avoir reçu en plein visage ce gros titre du Sun, les scientifiques reprochent aux mères qui travaillent d'être responsables de l'épidémie d'obésité infantile en Grande-Bretagne. aux gens en charge du marketing des merdes destinées aux enfants, allez tous vous faire foutre. Prenez-la, vous n'avez qu'à la prendre, je ne peux plus continuer comme ça. Vous êtes trop riche, vous êtes trop fort, je suis trop faible, je suis trop tendre. Hissez vos panneaux d'affichage, vendez ces rêves, trop haut pour qu'elles les atteignent jamais. Transformez sa chair en fiction jusqu'à ce que chaque respiration soit lourde d'insécurité. Allez-y! Dites-lui qu'elle est trop maigre. Puis dites-lui qu'elle est trop grosse. Jusqu'à ce qu'elle soit terrifiée par toute vie qui vienne ramper sur sa peau. Allez-y, prenez-la. Je ne peux pas vous battre. Je me suis tellement crevée à essayer. David ne bat pas Goliath. Ça, je n'y crois plus. Alors déversez vos bonbons. À chaque caisse où l'on poirote, empaquetez vos céréales de dessins animés, vos Happy Meal de jouets gratuits merdiques, vos boissons gazeuses recommandées par toutes ces stars préférées, jusqu'à ce qu'elles me supplient et me supplient, mon calme réduit en poussière. On me dit que les mères sont fautives pour l'obésité et la honte de son corps. Elle me supplie à la caisse, je m'apprête à lui redire non, crie à mes pieds, je suis la pire des mamans. Tête qui se tourne, mes joues embrasées, toutes rouges. Un lance-pierre dans ma poche, juste au cas où.
Materne-moi. Parfois, je veux être celle à qui quelqu'un d'autre apporte le thé. Qu'on borde, sous la couverture, une histoire, une autre, la lampe en veilleuse, baisée sur le front, forcée à se reposer. Parfois, je veux un drap de bain enroulé autour de moi, le corps frotté doucement, les tapotements séchant la peau quand je sors de la douche, ma tête frictionnée dans une serviette, mes cheveux brossés. Parfois, je veux, moi aussi, mes peurs chassées d'une étreinte, une lettre d'excuse pour mon absence scolaire. Parfois, je veux quelqu'un pour me materner, tout comme je te materne.
Course amusante. Je vis dans un endroit où des gamins à l'âge de 3 ans savent déjà faire du vélo mieux que moi. Où des gens partent en camping pour les vacances, même quand ils ont les moyens de séjourner à l'hôtel. Et où la plupart des amis de ma fille ont déjà effectué une course à pied de 5 km qui a lieu presque chaque dimanche. On appelle ça une course amusante. Je me suis fait tant de soucis parce que ma fille était la seule à ne pas vouloir participer à cette course amusante dominicale que j'ai commencé à paniquer à l'idée d'avoir élevé une enfant vraiment fainéante et d'être moi-même tout aussi fainéante, raison pour laquelle elle ne voulait plus désormais aller courir autour du parc pendant son temps libre. Un samedi soir, où j'avais le sentiment d'être une mère particulièrement merdique, je lui ai dit « Bon, demain, je crois que tu devrais participer à ce truc de course amusante. » Elle ne voulait pas y aller. Elle me l'a dit et a enfoncé son visage dans le derrière d'une moufette en peluche. Je lui ai dit qu'elle était la seule enfant à ne pas y participer et que c'était censé être vraiment amusant. « Ça s'appelle une course amusante », ai-je dit. « Une course amusante dans le parc », ai-je répété. « Ça a l'air super bien et beaucoup de tes amis vont y être. » Amusante. Je m'efforçais aussi de me convaincre du mieux que je pouvais. Son visage est resté impassible. Je lui ai dit qu'elle pourrait peut-être essayer juste une fois pour voir si elle aimait et qu'ensuite je ne lui en parlerai plus. Elle m'a demandé si j'allais y participer, moi aussi, car tous les enfants qui couraient le faisaient avec leurs parents. J'ai dit non. J'ai dit que je n'imaginais rien de plus barbant pour occuper notre grasse matinée du week-end que se lever pour aller courir autour du parc sous la pluie. Nous avons décidé de nous en tenir à nos 3 heures de télé. Elle qui regarde, moi qui dors, suivie d'un petit déjeuner à 16 heures. J'exagère, bien sûr. Je fais des trucs avec ma fille le week-end. Simplement, je n'aime pas courir à moins d'avoir une balle entre les jambes, c'est tout. Bon, j'ai réécrit cette phrase 3 fois pour qu'on n'ait pas l'impression que je parle de testicules, mais j'ai pas trouvé mieux. Je parle ici d'un ballon de foot. Les jours où je m'inquiète de mon rôle de parent, bien plus qu'on ne devrait le faire quand son enfant est protégé, aimé et ne meurt pas de faim, je me remémore ma propre enfance et les meilleurs moments dont je me souviens. Le caramel Quality Street aux noix du Brésil fait partie de ma boîte de souvenirs. Ou celui que vous préférez, vous. Le mien, c'est le violet. J'avais, et j'ai, une sacrée chance. Je me souviens des milliers de bons moments de mon enfance et de mon adolescence. Cependant, j'imagine qu'aucun ne doit figurer parmi les meilleurs moments que mes parents pensaient m'offrir. En fait, un bon nombre d'entre eux sont des moments qui, dans les souvenirs de ma mère, l'ont rendu malade de culpabilité. Je ne me rappelle pas des jours où ma mère ou mon père venaient me chercher à la sortie de l'école et où nous rentrions directement à la maison. Je stresse beaucoup quand je pense m'être absentée trop longtemps ou n'avoir pas été assez souvent présente aux portes de l'école. Mais quand je repense à ma propre enfance, mes meilleurs souvenirs sont à l'exact opposé de cela. Ce sont les jours où ni ma mère ni mon père ne venaient me chercher à la sortie pour me ramener chez nous. Je me rappelle avoir adoré être récupérée par les parents de mes amis et aller jouer chez d'autres gens. Naturellement. À l'école primaire, pendant environ un an, on me déposait chaque matin chez mon amie Caroline au bas de la route. On petit-déjeunait en regardant le film Ghost presque tous les matins. J'adorais ça. Je récupère chaque semaine des enfants pour des amis. Et j'ai des amis qui font de même pour moi quand le père de ma fille ou ses grands-parents ne peuvent pas se libérer. Et il semble que ce soit quelque chose qui nous tracasse tous en permanence. Mais c'est de la culpabilité à la con. Les gamins s'en accommodent très bien. Je ne me rappelle pas de mes visites au musée, par exemple. Sauf celle, à l'âge de 8 ans, où Jordan a dit qu'il avait une bombe dans son sac à un agent de sécurité, ce qui nous a valu une bonne heure d'attente supplémentaire avant de pouvoir entrer. Les instituteurs étaient furieux, et on a tous trouvé que Jordan était épatant. Je ne me souviens pas si les maisons de mes amis étaient propres, coquettes ou bien rangées, mais je me souviens des maisons de poupées Sylvanian Families de Jody, et aussi qu'elle avait des gaufrettes roses, des barres chocolatées Tracker et une machine à soda. Je me souviens que Caroline a eu des nichons avant moi, qu'elle m'a fait découvrir le groupe Counting Crows et qu'on passait des étés entiers à jouer au ballon. Je me souviens de l'arbre d'escalade près du cimetière et du parc à balançoire qui était spécial parce qu'il y avait un manège. De tous les souvenirs estivaux de mon enfance, celui qui me revient le plus en mémoire, c'est quand on m'avait autorisé à sauter dans la poubelle pour tasser les déchets du jardin.
En choisissant des souvenirs. Peut-être te souviendras-tu de tous les meilleurs moments de l'heure du coucher, cramponnés les uns aux autres, tandis que tournent les pages impatientes. Tes bâillements dénigrant ton insistance à dire que tu n'as toujours pas sommeil, jusqu'à ce que, au beau milieu de notre histoire, tu t'endormes sur l'oreiller. Mais peut-être ne t'en souviendras-tu pas. Il est plus probable que tu ne t'en souviennes pas. Peut-être te souviendras-tu de tous les châteaux de sable que nous avons fourbis ensemble, seaux versant de l'eau de mer, tandis que les douves se dissolvent dans les sables. Peut-être rythmerais-je tes souvenirs, comme la mère qui te tenait toujours la main, t'embrassait et te câlinait pour chasser tes rhumes. Ou peut-être te souviendras-tu seulement des jours où j'étais trop fatiguée, des jours où je n'étais pas là, des choses que nous n'avons pas faites. Je ne peux pas choisir les souvenirs à ta place. Dieu sait que j'aimerais. De mon enfance, je n'ai guère de souvenirs, instantanés au fil des années. Mais sautant dans la poubelle de jardin, pendant que maman ou papa me tient les deux mains, me fait faire du trampoline au sommet des piles de déchets, boutures, branches, piétinant l'herbe fraîchement tondue, c'est un souvenir qui a survécu au passé. Je me demande souvent quels seront les tiens au fil de toutes ces années où nous avons joué. Si tu en auras un moitié aussi bon que sauter dans la poubelle ce jour d'été souriant. Ça m'irait.
En jouant au ballon avec Caroline. À Caroline. C'était les étés passés à faire rebondir le ballon contre le mur de briques, puis à faire encore rebondir le ballon contre le mur de briques, puis à appeler Caroline pour qu'elle vienne jouer, à faire rebondir le ballon contre le mur de briques avec moi, jusqu'à ce que Caroline s'en aille, appelée par sa mère, et je continuais seule à faire rebondir le ballon contre le mur de briques, jusqu'à ce que Caroline revienne, une fois nourrie ou corvées accomplies, Et nous continuions à faire rebondir le ballon contre le mur de briques, jusqu'à ce que, lassée de faire rebondir le ballon contre le mur de briques, elle court de l'autre côté de la rue étroite, et nous envoyions le ballon aller et retour sur la bordure, 5 points pour un rebond, 10 points si on le rattrape, juste envoyer le ballon aller et retour sur la bordure en discutant, juste envoyer le ballon au-dessus des voitures qui passent, juste envoyer le ballon au-dessus des années qui passent, juste envoyer le ballon jusqu'à ce que le soleil au-dessus de nous menace même tout doucement de se coucher. Et les lumières dans les maisons raccordant les rues éteignent le jour avec chaque interrupteur actionné, jaune à jaune foncé, à noir, et l'une de nous doit rentrer.
Les enfants vont bien. Où ? Poème pour me sentir mieux, vu que ma fille passe 4 heures par jour devant les jeux vidéo, alors que j'essaie de travailler à la maison pendant le confinement. À ma fille, qui dit que « girafe adulte au néon » n'est pas l'expression correcte, mais que je vais embêter en la gardant. Tends tes mains, mais cesse de pointer du doigt. Les enfants vont bien. Les enfants ne sont pas stupides. Les enfants ne sont pas des propres à rien. Les enfants ne sont pas des flemmards. Les enfants escaladent toujours les arbres. Les enfants font toujours la roue. Les enfants discutent toujours de qui ils embrasseront, gifleront ou bécoteront. Sur leurs iPads et leurs écrans, les enfants bâtissent des châteaux avec des cubes pixelisés. Les enfants élèvent des animaux mythiques. Les enfants troquent des licornes contre des girafes adultes au néon. Sur YouTube, ils ont appris à fabriquer de la boue moelleuse avec ta mousse à raser. Sur TikTok, ils imitent des danses 1 million de fois plus habiles que la Macarena de ton époque. Les enfants, ça va, je crois. C'est pour nous que je m'inquiète. Renfrognés sur nos canapés, une génération au-dessus, reproduisant la culpabilité que nos aînés nourrissaient pour nous.
Arc-en-ciel. À ma fille encore, merci pour tous les arcs-en-ciel que tu m'as offerts. Sur le papier, tu dessines déjà un autre arc-en-ciel. Ce sont des arcs-en-ciel que tu dessinais et des arcs-en-ciel que tu dessines encore. Rouge dans l'orange, orange dans le jaune, vert dans le bleu, un soupçon furtif de rose illicite. Gomme adhésive sur chaque mur, un arc-en-ciel sous chaque aimant du frigo. Un arc-en-ciel caché dans ma valise pour quand je serai loin. Un arc-en-ciel brandi à bout de bras quand je reviens à la maison. Quand j'étais enceinte, et tout ce qu'on savait alors de toi, c'était des formes sur ma peau, j'imaginais que je serais celle qui te montrerait le ciel du doigt. T'en mitouflant d'étreinte, zébré de rayons de soleil à chaque pluie diluvienne. Je me trompais.
Je souhaite seulement que tu fasses quelque chose de toi. De Holly McNish. Extrait de Parentalité. Traduction Valérie Rousseau, Frédéric Brumont. Lu par Céline Mia Baumgartner, Juliette Poissonnier, Élodie Hubert, Claire Dumas. Et la voix de Julie Quenet. Conseillère littéraire Céline Geoffroy. Prise de son, montage et mixage Antoine Viossa et Pierre Lemaire. Assistante à la réalisation Florine Pérennes et Aurélie Mirmont. Réalisation Juliette Eman. Remerciements aux documentalistes Antoine Villoz, Kitting Wang et Marion Guilaine. Je souhaite seulement que tu fasses quelque chose de toi et publié aux éditions du Castor Astral.
First, You didn't need my body anymore. Tombstone of a star, stormed out blind and screaming. Then you did not need my heartbeat anymore. Cord cut and pegged till current stopped, till tide dried up, till shriveled skin, our bitter, carnal closeness dashed into a dustbin. Then you did not need me, breasts hardening, redundant, cabbage leaf companions to ease the swell of loss. Then you didn't need me to hold your head as you sat up, to hold your hand as you walked, to hold the spoon as you ate, to jog beside your bicycle, to catch a falling roller skater, to run beside your scooter, to sit beside your bed, to read a story till you sleep, to run my finger under every letter, to mouth each word you read. How strange it is, this feeling, swaddling you in love, just to help you leave.